France Musique.
À demain, Lionel Esparza, dans votre hôtel préféré.
France Musique, à l'improviste, Anne Montaro.
Je ne sais pas pourquoi j'ai ce tambour, on a dû me le donner, ça faisait longtemps que je l'avais et je l'ai réparé il y a peu de temps. Je me suis dit bah, pourquoi pas, après tout on est à la campagne, il y avait les gardes champêtres, il n'y en a plus et eh bien, je vais pouvoir faire les annonces, faire quelques roulements de tambour pour inviter les gens à s'approcher de l'entrée. Voilà, tout simplement.
Nine le Butler.
Voilà, absolument.
Bienvenue dans À l'improviste, votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent et les festivals aventureux. Dans notre émission ce soir, retour sur Images, sur la 5e édition du festival Le Bruit de la Musique, qui se présente précisément comme un festival d'aventure sonore et artistique. À l'origine de ce festival, pas tout à fait comme les autres, niché dans la Creuse, au milieu de nulle part, deux musiciens, la violoncelliste Martine Altenburger et le percussionniste Léquanine, autrefois actifs dans le sud de la France et aujourd'hui installés dans ce coin perdu de France particulièrement silencieux. Ils ont pris le pari de faire découvrir au public creusois toutes les musiques qui les traversent et qu'ils rapportent régulièrement de leurs voyages, de leurs concerts. C'est leur façon à eux de s'enraciner dans ce nouveau paysage et surtout de partager avec un public les expériences d'écoute qui sont au cœur du bruit de la musique.
Il y a un calme déjà tout à fait formidable qui permet d'écouter ce qui se passe de manière très claire, de manière très distinguée. On peut vraiment distinguer les choses dans l'espace, qui est un plaisir d'écoute formidable et qui nous nourrit, nous en tant que musiciens. Et dans le cadre du festival, d'être dans un environnement aussi calme est vraiment très propice à l'écoute pour le public, et ce qui leur permet vraiment de pouvoir vraiment rentrer dans le détail vraiment de ce qui est émis. Et ça, c'est indispensable en fait. C'est comme si là, on avait en tout cas une qualité de silence qui permettait vraiment de pouvoir apprécier l'émergence du son. C'est vraiment très très important. Et l'expérience de pouvoir écouter les sons émerger vraiment de quelque chose d'incroyablement calme est une expérience d'une richesse assez formidable.
Quand on traverse les villages, on ne voit personne. Mmh. Et c'est un paysage qui pourrait être caricaturé extrêmement facilement. Mmh. Les villages complètement vides et les gens derrière leur rideau, où on voit juste le rideau bouger. Et on est dans le village, il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs villages, il y a trois villages qui sont rassemblés autour de la diffusion. Et ça se fait autour d'un chapiteau et un visuel et un accueil, une déco que l'on fait pas nous. Hein. On s'est entouré d'amis qui sont super, super compétents. Et l'univers qu'ils posent participe aussi à partager avec tout le monde. Mmh.
Le mystère reste entier, c'est-à-dire le mystère de qui est qui vient là, et quelle écoute chacun va pouvoir engager. Et puis, parce que chacun écoute là où il ou elle en est, hein, et ça, on n'est pas propriétaire de ça, on ne sait pas. Et ça, c'est vraiment très beau que des personnes venant justement d'horizons différents, ayant des pratiques d'écoute très différentes, des gens qui ont une pratique extrêmement, éprouvée, d'autres pas du tout, veuillent quand même se rassembler pour vivre ce moment. Ça paraît très banal de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, à la fois très mystérieux et très beau, ce positif besoin grégaire. Voilà, c'est une manière positive d'être grégaire, c'est de vouloir être ensemble. Et en fait, c'est vouloir tendre pour vivre des choses, vivre des expériences. Et même si l'expérience de chacun est unique et est faite finalement en toute solitude, puisque mes oreilles ne sont pas celles du voisin, donc la façon dont je vais entendre n'est pas du tout la même façon que mon voisin ou ma voisine va vivre. Et malgré tout, on a envie de le faire ensemble. Tout ça est tout à fait est très 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 banal, ce que je dis, mais ça ne cesse moi de m'étonner en fait.
Revivre en une heure, trois journées de festival est bien sûr une gageure, mais l'équipe d'Alain Proviste va essayer de relever le défi. Alors premier défi, déjà arriver dans le village de Saint-Sylvain-sous-Toul, où sont installés l'accueil et la billetterie du festival. Amoureux du chemin de fer, ce village n'est pas du tout pour vous. Ensuite, il faut ouvrir grand les yeux pour apercevoir en bordure de champs et sur les murs du village les jolies affichettes du festival. Le témoignage de Muriel grâce à qui les festivaliers se restaurent.
Ce qui nous surprend toujours, parce que nous, on a fait beaucoup on a organisé des choses en creux, et on faisait plein d'affichages, de grosses pancartes partout. Et alors là, il y a des petites pancartes, toutes rikiki,
minuscules, hein,
minuscules, avec écrit le bruit de la musique. Et alors à chaque fois, ça nous éclate, et on se retrouve avec plein de gens. C'est fabuleux. Je pense que c'est peut-être... On pourrait penser pour des initiés au départ, mais tout le monde est accueilli. D'ailleurs, on le voit le samedi soir, il y a des gens du coin et qui viennent pour manger, mais qui se mélangent avec les artistes et les... Voilà.
Le cœur du festival bat à Saint-Sylvain-sous-Toul. C'est un pré cédé par un paysan l'espace de 3 jours. Les vaches ne sont plus là, des tentes sont dressées et surtout un chapiteau multicolore sous lequel se déroule une grande partie des concerts. Et si le cœur du festival est là, il y a d'autres organes vitaux, par exemple le petit théâtre de la Spouse, le château de la Roche et les églises de Domero et de Toul-Sainte-Croix, dans lesquelles par exemple le quatuor anglais Apartment House est venu jouer un répertoire de pièces du XXe siècle faisant la part belle au minimalisme américain. Chaque festival a ses rituels, ses fils rouges. Le bruit de la musique en a proposé plusieurs, en plus des rendez-vous avec Apartment House. Il y a eu sur les 3 jours une aventure d'une rare poésie offerte par Laurent Bigot, le Petit Cirque, spectacle miniature qui s'est joué chaque jour dans les crins du Petit Théâtre de la Spouse, un endroit magique présenté par les Kuan Yin.
Ah oui, alors ce petit théâtre, c'est incroyable parce que c'est donc un petit théâtre qui a été construit par une figure creusoise. Hein. C'est Monsieur René Bourdet, ancien acteur, d'abord ancien paysan, acteur qu'on a vu dans plusieurs films et téléfilms dans les années 60, qui a été un militant du théâtre prolétaire, on pourrait dire, donc faire du théâtre dans les usines. Sans doute proche du Parti communiste, mais sans en avoir jamais eu la carte, mais malgré tout ayant un cœur d'anarchiste. Et il a attendu l'âge de 67 ou 68 ans pour organiser un festival dans son propre lieu, dans lequel donc il y a ce petit théâtre, qui est en fait un ancien atelier d'artiste du peintre Pierre Gavarni, qui... pour quelle raison totalement incongrue a fait qu'il a construit un atelier avec une grande verrière derrière une ferme, au milieu de rien. C'est tout à fait étonnant. Et il a fait construire aussi à côté un petit salon de musique assez petit, mais qui pouvait accueillir un petit piano. Et ça, vraiment, au milieu du 19e siècle.
Laurent Bigot est musicien. Son petit cirque est la conjugaison de son amour pour le cirque d'abord et également pour les traitements sonores, puisque l'électronique est l'un de ses moyens d'expression privilégiés, et enfin de sa passion pour les automates. Assis derrière sa table ronde, il enchaîne les numéros d'une dizaine d'artistes miniatures tout droit sortis de l'univers des jouets. On pense à Calder et à son petit cirque. On pense à un géant manipulant des lilliputiens avec force éclat de voix.
Je me considère plus comme un dresseur. Un dresseur ou... Oui, voilà, oui. Un directeur de cirque.
Oui, parce que tu ponctues tes actions par des encouragements, des grognements, des commentaires vocaux.
Oui, oui, il faut les soutenir, effectivement. Ils en font un peu qu'à leur tête. Chaque artiste fait son numéro. C'est pas moi qui fais le numéro. Hein. Moi, je guide, j'oriente, je... voilà, mais ce sont eux les artistes. Enfin, voilà, c'est un cirque où il y a des animaux, hein, je m'excuse. Je sais que ça se fait plus beaucoup. Ouais. Mais en l'occurrence, ce sont eux qui l'araignée fait du fil, comme de bien entendu. Et l'aigle plane majestueusement au-dessus de la piste. Voilà, bon. Après, ça reste des jouets.
C'est des jouets que tu glanes un peu partout, j'imagine, dans des bazars.
Oui, alors c'est beaucoup de trucs à 3 francs 6 sous. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des choses qui produisent du son, toute seule, sans mon intervention, et que moi je puisse travailler avec justement des micros, une table de mixage. Et puis après, le jeu, c'est de faire que le visuel et le musical existent ensemble, ce qui n'est pas forcément très évident, parce qu'ils n'ont pas les mêmes nécessités de durée. Il y a des choses qui peuvent lasser visuellement alors qu'ils vont avoir besoin de temps musicalement, parfois l'inverse, voilà. Alors il faut jouer avec tout ça, et puis donc il y a ces numéros qui sont prévus, et il y a des tas d'imprévus, et là c'est pareil, il faut réagir à l'imprévu et visuellement et sonorement, musicalement, donc ça non plus c'est jamais très facile, voilà. Pour moi, il y a la base de numéros qui s'enchaînent. Et après, moi, ce que j'ai l'impression de faire, plus que de raconter une histoire, c'est de jouer avec des matières qui sont sonores, des matières qui sont visuelles, ou, je ne sais pas, psychologiques, entre guillemets, parce qu'il y a des choses, il y a un peu de violence, je pense, dans mes gestes, et là, on peut trouver le démiurge. Il y a... Parfois, je peux être très doux. Mais voilà, tout ça... C'est une espèce de marmite où je mets un peu tout ça, du sonore, du visuel, de la suggestion, voilà.
Et d'ailleurs, l'acte le plus violent, il commence dès le début avec ces personnages qui dégringolent, désarticulés sur cette toile que tu suspends. Et on est tout de suite saisi par le son très violent là, et l'acte et la projection du personnage sur la toile.
Oui, c'est le fait que je les lance aussi, oui, je pense, qui... Voilà, c'est vrai que je suis... Si on regardait le spectacle comme un spectacle de marionnettes, je suis une vraie brute. Mais moi, j'ai besoin de ces sons, forts à ce moment-là. Et ben, oui, tout de suite, ça crée des choses pour l'imaginaire de voir ça. Et alors moi, je tiens un peu à garder ça, oui, comme une matière. Pour moi, ça reste quand même un petit peu abstrait, avec beaucoup de suggestions très concrètes, quoi.
Le petit cirque de Laurent Bigot, petite merveille de poésie, accueilli par le festival Le Bruit de la Musique du 17 au 19 août dernier, dans le théâtre de la Spousse, qui est, à l'image de ce spectacle, un théâtre en miniature. Autre fil rouge de cette cinquième édition du festival Le Bruit de la Musique, l'univers musical de Lionel Marchetti, improvisateur et compositeur de musique concrète. Lionel Marchetti a ouvert le festival sur une rencontre improvisée avec Nadia Lena Blue, musicienne creusoise, elle aussi manipulatrice d'électronique, et avec qui il n'avait encore jamais joué. Leur double dispositif, aménagé dans le parc du château de La Roche, a fait jaillir un feu d'artifice sonore qui venait se perdre dans les frondaisons des magnifiques séquoias du parc. Et puis changement de décor, le lendemain matin, sous le chapiteau, à 11h tapante, Lionel Marchetti invitait le public du festival à une séance d'écoute commentée de certaines de ses compositions.
Alors là, je vais vous faire écouter trois compositions qui sont extraites, en fin de compte, d'un très 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 grand ouvrage sur lequel j'ai travaillé ces dernières années, dont le titre est Atlas, 97 phénomènes. Atlas, donc comme l'Atlas qui réunit tout un tas de cartes, qui réunit tout un tas de lieux géographiques, de topographies, je ne sais pas comment dire, de milieux différents, d'espèces, d'espaces différents. Et donc ce projet Atlas est composé justement de 97.
Troisième rendez-vous avec la musique de Lionel Marchetti, cette fois-ci en duo avec Carole Rieusec au dispositif électroacoustique. Nous sommes encore une fois sous le chapiteau de Saint-Sylvain sous Toul. Les deux musiciens ont su exploiter l'espace semi-clos du chapiteau, ses tentures de toile. Les sons sont comme des couleurs qu'ils projettent sur la toile. Lionel Marchetti et Carole Rieusec n'avaient encore jamais improvisé ensemble. Ils ont soigneusement choisi leur dispositif.
Alors, on s'est un petit peu préparé. On a eu peu de temps, mais on a quand même eu le temps de choisir un dispositif déjà de spatialisation. Et c'est déjà énorme quand on fait l'électroacoustique de penser à ça et d'avoir le temps d'y réfléchir et de l'organiser à minima. En fait, on est parti sur une biphonie, c'est-à-dire que Lionel aimait que d'un côté et moi je n'aimais que de l'autre. Et par un jeu de réflexion, il y a une espèce de comment on pourrait dire, de repartage du timbre qui se fait d'une façon surprenante, parce qu'il y a un creux dans le milieu de cette biphonie qui est comblé par le jeu des réflexions. C'est un dispatchage des fréquences qui est très particulier et qu'on a pu pour la première fois expérimenter.
Mais il y avait aussi cette idée du 1 plus 1 égale 3. L'idée d'un dispositif technique qui, de manière un petit peu formelle finalement, suscite cette idée d'émergence lorsqu'on associe effectivement des éléments qui ont leur autonomie, qui sont singuliers sans forcément avoir des choses à avoir ensemble, tout d'un coup par contact, génère une nouvelle forme, ou en tout cas crée une couleur nouvelle, quoi, comme lorsqu'on mélange des couleurs, quoi, tout simplement. Oui. Et en systématisant un peu cette idée-là, ça nous a amené dans une façon, une posture, un mode de jeu différent, ensuite qu'on a bien sûr essayé de creuser au travers des quelques jours de travail qu'on a eu précédemment. Quoi.
Travail sous quelle forme? Alors à la table, de réflexion ou avec les outils quand même?
Non, les avec les outils. Alors, je pense aussi c'est important parce que Lionel a un synthétiseur qui est nouveau.
Un synthétiseur analogique, qui est un nouvel instrument avec lequel je travaille, associé à quelques modules de traitement.
Et moi j'avais un dispositif aussi nouveau parce que en fait j'ai beaucoup travaillé la platine au tout début. Et là, je ne prends plus de platine tourne-disque, mais les platines CD. Et j'aime beaucoup ce rapport à la manipulation. Et du coup, j'étais contente de les ressortir et d'expérimenter ça. Donc je pense qu'on était tous les deux avec un instrument un peu nouveau. Et dans ce qu'on a aussi partagé, c'était, on est arrivé au final en se disant que c'était intéressant pour pas jouer trop, d'intégrer à la musique elle-même l'écoute. Oui. Et que du coup, on s'est dit, on met en branle, entre guillemets, une espèce de sculpture et on se retire de la fabrication et on l'écoute. Et à partir du moment où on l'a comprise, on revient pour la transformer.
Donc on vous a vu quitter l'un l'autre vos dispositifs, vous asseoir en retrait.
Voilà, et revenir. Et...
C'est presque une scénographie du coup.
Ouais. Du coup, alors, voilà, ça c'est quelque chose
qui... Là nous dépasse pour le coup.
Nous dépasse.
Qui tout d'un coup nous dépasse, puisque pour nous, il n'y a pas de volonté du tout.
Puisqu'on l'a fait sans public. Ouais.
Voilà, oui. L'idée c'est de se retirer réellement et d'inviter à
contempler.
À une posture d'écoute oui, plus contemplative, ou comme si on était face à un mobile qui tourne devant nous avec un éclairage un peu différent, mais on ne fait pas plus que de l'écouter, quoi, tout simplement.
Des moments qui n'arrivent presque jamais en improvisation, normalement.
Non, mais voilà, c'est aussi parce que nos machines qui sont critiquables dans le milieu instrumental, parce qu'effectivement, on est dans des postures compliquées par rapport au jeu instrumental. C'est vrai que c'est très évident à un moment donné quand on se dit ben, pourquoi on ne les laisse pas parler leur langage. On se retire, on écoute et quand on refabrique, on est moins bavard.
Il y avait cette idée aussi de laisser circuler quand même un souffle entre les présences sonores et puis de profiter d'être dans un chapiteau quand même de cirque. Il nous a donné une acoustique tout à fait étrange avec un retour sur nous du son au travers des tentures tendues là, au-dessus de nous et qui sont vraiment celles d'un cirque. Et puis un gradinage en bois un peu à l'ancienne. Et ça nous a mis aussi dans un rapport à une scène quasi ronde. Enfin,
un imaginaire.
Il y a quelque chose une influence quoi, qui est là, qui est bien tombée pour nous pour un premier concert, puisque c'était la première fois qu'on jouait en concert.
France Musique, à l'improviste, Anne Montaron.
Ce roulement de tambour, c'est celui de Lê Quán Ninh, percussionniste, co-directeur artistique du bruit de la musique et Monsieur Loyal quand il le faut. Sur l'affichette de cette cinquième édition du festival Le Bruit de la Musique, les festivaliers ont pu lire cette invitation joyeuse. Vous n'avez jamais soufflé dans un instrument avant de votre vie, alors soyez des nôtres dans l'Opéra Touffe. Cette fanfare est ouverte à tous de 7 à 77 ans. Première fanfare immédiate de musique improvisée, elle est réservée à tous ceux qui ont rêvé de défiler sans se défiler. La fanfare de la Touffe et l'Opéra Touffe était le troisième fil rouge de cette mouture du Bruit de la Musique. Une fanfare de 3 jours, aussi vite construite que déconstruite. Merveilleuse aventure collective qui a attiré 70 participants dans une région pourtant très dépeuplée. La fanfare de la Touffe est animée depuis ses origines, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, par le tromboniste Fabrice Charles et le saxophoniste Michel Doneda, rejoint par le comédien Michel Mathieu. La vocaliste Natacha Muslera a été sollicité sur cette édition pour faire chanter les acteurs de cet opéra improvisé.
C'est un projet qui a maintenant bientôt 23 ans que j'ai démarré avec Michel Doneda. En fait, le principe, c'est que je possède un parc d'instruments, des instruments de fanfare, donc des instruments de la famille des cuivres, plus d'une centaine maintenant actuellement. Et le principe, c'est donc de faire continuer à vivre ces instruments qui sont tous des vieux instruments récupérés dans des fanfares, des harmonies, dans des mairies, dans des greniers, dans des caves, chez des réparateurs d'instruments. C'est vraiment un patrimoine musical d'anciens instruments. Le plus vieux de ce parc est de 1887. Donc vraiment, et la plupart des instruments sont plutôt du début du XXe siècle. C'est des instruments qui sont qui n'ont pas tout ce qu'il faut, qui n'ont pas tous les paramètres pour sonner encore, faire sonner toutes les musiques, mais tous ces instruments ont encore le son. Le son fonctionne encore très bien. Et donc avec quelques petites adaptations, quelques petites réparations, est venue l'idée de faire continuer à vivre ces instruments, à faire sonner ces instruments. Et donc, l'idée d'utiliser, de faire profiter à chaque fois un groupe de gens différents et, c'est, si possible, des non-musiciens. Donc là, c'est ce qu'on met en place pour le festival, avec une petite variante, parce que là, spécifiquement pour le festival, on fait l'Opéra Touffe, qui est une variante qu'on fait assez peu. Sur les 23 ans, on a dû le faire 5-6 fois. Et là, le principe, c'est que donc il y a cette fanfare de la Touffe qui est installée avec les instruments, avec le groupe de non-musiciens. Et on va leur faire aussi, on va les faire chanter, utiliser leur voix. Et donc, en fait, on est 4, l'équipe de la fanfare de l'Opéra Touffe, pour préparer le spectacle. Donc il y a Michel Doneda qui sera le soliste, qui a quand même une petite participation aussi de chef d'orchestre. Natacha qui va donc s'occuper de tout ce qui est voix, Michel Mathieu qui est un comédien qui fait des actions, qui lui est vraiment aussi depuis le début de la fanfare de la Touffe, donc qui fait des actions autour de la fanfare, et puis donc moi je dirige la partie instrument.
Donc c'est très simple, hein. Si je dirige, c'est les instruments et uniquement les instruments, tous les signes qu'on a appris hier soir. Et donc si Natacha dirige, c'est uniquement la voix, d'accord? On essaye?
Alors en fait, l'idée, c'est de poser un cadre, donc d'utiliser les premiers sons que chacun arrive à faire dans ses instruments, et de pas juste laisser comme ça, d'une manière complètement libre, les choses se faire. Donc nous, on n'est pas des chefs d'orchestre, on est des meneurs un peu comme ça. Donc sur une base de une signalétique très simple, très très basique, hein, c'est pas du tout un langage compliqué, et puis sur vraiment les bases quoi, des sons longs, des sons courts, et puis on s'amuse évidemment très vite à détourner le son des instruments, ça c'est aussi très important. Et après chacun est complètement libre. On définit pas du tout de hauteur de son, de rythme, non, rien de tout ça. Mais voilà, il faut qu'on s'arrête ensemble, il faut qu'on démarre ensemble, qu'on donne comme ça, juste ce cadre un petit peu de matière, de son. On Là, c'est vraiment exceptionnel, hein, parce qu'on est dans un petit village, dans une petite région, pas très peuplée, et on est 70 là, pour le grand show de demain. Et c'est complètement incroyable. Alors moi, j'étais pas très, très rassuré, parce que l'opéra touffe, c'est quand même quelque chose qui demande un peu plus, parce que voilà, il y a la voix, puis on va mettre les musiciens en mouvement aussi, on va les faire un peu dans des espèces de mise en scène, mais bien sûr complètement décalées, et puis différentes, et c'est beaucoup, 70, ça fait une grosse masse, mais là, ça fait donc maintenant, on a fait les deux répétitions, les instruments et la voix, et on a vraiment une chance incroyable, on a un super groupe,
vraiment, ouais, ça marche
super
bien.
Ah ouais, ça marche super bien.
Pour moi, la fanfare, c'est les instruments. C'est réellement les instruments.
Michel Donneda.
Mais bien entendu, comme tout ça se vit ici et maintenant, dans un lieu, on est toujours en lien avec les énergies particulières qu'il y a avec nous. Et là, il y a une véritable... il y a une très bonne énergie, je dois dire, avec cette fanfare. On doit noter qu'il y a assez peu d'enfants, cette fois. Parfois, nous avons beaucoup plus d'enfants. Et... ouais, ils sont excellents. Non, ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est ce qui me trouble tout le temps, c'est que quand on enlève l'intermédiaire de la musique, déjà, et de l'apprentissage d'un instrument, c'est vraiment... Et qu'il n'y a que l'énergie et le désir, on se rend compte qu'il y a un possible immédiat. Et ça, c'est vraiment stupéfiant. Surtout que les gens sont dans un organisme sonore qui est extrêmement brut, on peut dire avec des mots extrêmement dissonants, mais que le jugement est totalement absent.
Parce qu'il y avait 70 cuivres et 70 voix, tout d'un coup.
Natacha Muslera.
C'est un rêve.
Énorme potentiel.
Ouais. Et en même temps, dans un temps très rapide, on n'a eu que 4h30 de répétition. Et du coup, il fallait à la fois être efficace et en même temps, mais ça, bon, Fabrice et Michel sont bien là. Et le fait qu'ils soient bien là, on pouvait être un petit peu décalé aussi dans la proposition vocale. Et vraiment, le cœur, c'est un potentiel inouï. Et c'est une puissance du commun extraordinaire. Et la fanfare, ça, je ne connais pas trop. Il y a beaucoup de fanfares militaires. Et il y a un peu ce côté-là aussi, militaire, qui pour moi est un endroit pas facile. Ouais, parce que les chœurs avec lesquels je travaille, chœurs tactiles, et puis d'autres chœurs, les chœurs in situ aussi, c'est l'endroit de ne pas... Il n'y a pas de chef de chœur. Il peut y avoir... Moi, je compose pour les chœurs, mais ça ne veut pas dire des chefs de chœur. Donc là, je me suis retrouvée dans une position plus ancienne, en fait, mais jamais à 70 voix. Et j'étais un peu impressionnée, mais c'était... Voilà, en même temps, c'est fantastique parce qu'il se crée des choses là absolument qui nous dépassent, qui nous débordent. Et quand je parlais du cœur et de la puissance du commun, mais aussi dans cette fanfare, vraiment cette chose de ces grands groupes de 70 personnes où il y a une vibration commune. Et là, les histoires d'égo, de territoire, ça disparaît complètement. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire de sentir que les gens sont bienveillants, en fait. Beaucoup plus que malveillants. S'ils sont malveillants, c'est qu'on va chercher des endroits, ça ne vient pas d'eux, ça vient d'ailleurs.
L'Opéra de la Touffe a été le point d'orgue de la 5e édition du Bruit de la Musique. Plus d'une heure de musique déployée dans une belle énergie par 70 soufflants chanteurs qui, pour la plupart, n'avaient jamais soufflé dans un instrument avant ni chanté.
Il est opportun d'aller manger maintenant et en une demi-heure maximum afin de vous rendre à la répétition à Domero.
Le Bruit de la Musique, festival d'aventures sonores et artistiques quelque part dans la Creuse, entre Guéret et Montluçon. Le mot « aventure » est important car il donne une idée de l'esprit de ce festival. Ouvrir ses oreilles à tout type de sons, à des musiques écrites, des musiques qui s'improvisent dans le moment, et aussi à la musique des mots. Le poète sonore Sébastien Lespinas, invité en juillet dernier par le festival Jazz à Luz, était aussi présent sur cette édition du Bruit de la Musique. Sa voix, ses mots, ses gestes ont résonné dans les murs de l'église de Saint-Sylvain sous Toul avec une rare force.
Maintenant, nous ne nous laisserons pas intimider par l'existence des imperméables. Maintenant, nous examinerons deux gouttes d'eau sans nous laisser abuser par les mirages de la comparaison. Nous rayerons comme du dictionnaire des esprits.
Musique de la langue, musique des mots, Sébastien Lespinas écrit ses propres textes, témoignage de sa présence au monde. Comme l'improvisation, la poésie sonore est une action.
Il y a un élément quand même qui est fondamental et qui est là dès les origines même de la poésie dite sonore ou phonétique, c'est que... Le langage n'est pas simplement un outil. Nous en servons pour communiquer, mais c'est bien plus que ça. Nous rêvons, nous vivons, nous sommes faits de langage. Nous habitons le langage, nous sommes habités par le langage. Et donc, cette capacité, cette force d'avoir créé un champ autonome, d'avoir rendu le mot, la langue, à un état brut où les mots sont disponibles à toutes les opérations, permet de se décoller de la langue qui n'est jamais tout à fait la nôtre, qui est toujours une langue, par définition, et c'est pas grave, mais qui est toujours une langue sociale, apprise du dehors, et qui n'est jamais tout à fait exacte par rapport à ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on ressent.
Selon le sondage BABA Surprise, 67% des Français considèrent que le découragement devrait être appris plus tôt à l'école afin d'éviter toute désillusion. 32% s'y opposent, 12% ne se prononcent pas et 7% s'interrogent sur autre chose.
Il y a aussi beaucoup de lumière dans ta poésie.
Lumière, je sais pas. J'ai l'impression, moi, quand j'écris, d'être aveugle. J'entends. Je suis une taupe. Je suis sous les fondations. Je creuse des trous. J'écoute un bruit. J'écoute une espèce de bruit des profondeurs que je traque, que je n'atteins jamais complètement. Il se trouve que ça génère des images, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une lumière dans le sens où au fond, j'ai toujours la croyance que nous pouvons trouver une façon d'être tous ensemble et que j'ai l'impression que les choses ne sont jamais complètement perdues. Voilà.
Et donc, j'adore faire ces rythmiques qui sont un peu... C'est pas internet et sec, c'est un peu...
Autre jongleur de mots, Frédéric Le Ginter, musicien bricoleur de Dunkerque bien connu de cette émission, il a enflammé le chapiteau avec son verbe doux amer et ses instruments de briques et de broc beaucoup plus sophistiqués qu'il n'y paraît. Jamais encore ses chansons impopulaires n'avaient eu à mes oreilles cette vigueur corrosive et joyeuse à la fois.
Mouf, 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 mouf! Mouf ton bordu! Stack, stack, stack! Stack ton bordu! Stomp! Stomp, Zeiger! J'explique! Stomp en flamand, c'est la poussière. Stomp, Zeiger, l'aspirateur. Mais, plek! Plek, plek plaster, c'est la boule de plâtre que quand tu la jettes, elle colle sur le mur, elle tombe pas. Et la tête. Alors j'en étais à Stoff. Stoffreger. Plek, plek plaster, c'est pas assez mouillé, nom de Dieu. Et la tête. Et la tête. Et la tête. Et la tête. Clap me! Clap me, baby! Clap! Clap me! Clap me, baby! Et maintenant, une autre chanson! Quand je vois toi, je vois quoi? Quand je vois moi, je vois quoi? Stop! Stop, Seigneur! Blech! Blech, Blaster! Clap me! Clap me! Clap me, baby! Clap me! Clap me! Clap me, baby!
L'instrumentarium de Frédéric Le Ginter est suffisamment intrigant et insolite pour attirer les regards. Après son tour de chant, le musicien parolier répondait aux questions de Bérengère, littéralement sous le charme de ses objets sonores.
Une partie de ce que je fais, c'est de la lutherie. Et puis après, je joue avec ça, parce que je n'ose pas jouer avec une vraie guitare, ni avec des... Et puis j'aime bien les sons des ressorts, des élastiques, des bricolages.
Et donc, alors cette idée-là, de cet instrument étrange...
Ça, c'est une machine. Ça, c'est... Alors, le numéro qui est dessus ne correspond pas à la série, parce que des instruments, des machines, j'en ai fait 150. D'accord. Donc c'est une des dernières, c'est-à-dire que j'ai fait une machine rythmique qui est très petite pour tenir la valise.
D'accord.
Et il y a la vitesse qui est réglable. Et j'ai deux instruments, caisse claire, grosse caisse, l'équivalent, et une basse ici, le troisième.
J'aime tes feux. J'aime tes yeux mollets. Allez, allez. On fait moitié, moitié, ma chère Azade. Dansons pendant que l'occasion passe, ma chère Azade. Dansons pendant que l'occasion passe. Ooh.
bouche comme un nuage. Et le reste, comme une averse. Ma chère Azad, dansons pendant que l'occasion passe. Ma chère Azad, dansons.
De la musique sans les mots, il y en a eu évidemment à maintes reprises sur cette édition du Bruit de la musique. Le duo Xamp de Fanny Vicence et de Jean-Étienne Sauty est venu présenter au public de l'église de Domero deux nouveaux instruments, des accordéons en quart de ton. Parmi les découvertes de ce concert, une création de Pascale Criton, compositrice justement familière des micro-intervalles.
L'intérieur d'un accordéon, c'est absolument un labyrinthe de possibilités, c'est des sommiers avec plein d'anches et en fait c'est vraiment un instrument qui est accordable, pas comme une guitare, mais quand même. Et donc en commençant à travailler, à jouer avec ces instruments, il y avait 4-5 matières comme ça sur lesquelles on s'est dirigé, puis il y en a une sur laquelle on a privilégié notre attention et c'est en fait de travailler sur les conditions pour que des interférences se produisent entre des sons très proches, en utilisant toutes les manières de faire comme ça se rapprocher des fréquences, parce que là vraiment ça travaille sur les fréquences. On a tout fait en fait pour s'intéresser justement à ce phénomène sonore vivant qui est vibratoire, qui est de la vibration, en fait des états vibratoires dont on écoute les battements, dont on écoute les vitesses. Dont on écoute les mélanges et aussi en fait ces instruments produisent ce qu'on appelle des basses fantômes, c'est-à-dire des sons très graves que l'instrument ne joue pas mais que la rencontre des sons, c'est un phénomène acoustique qui est connu, c'est pas pour autant que tous les instruments peuvent le produire et qu'on puisse aussi en profiter dans une sorte d'écriture, dans une construction sonore. Donc là, on a profité de ces basses fantomatiques ou aussi de son résultant pour écrire une musique un peu presque immatérielle. Hein.
À l'improviste, au bruit de la musique, mon micro-baladeur n'a pas pris de vacances cet été, ou plutôt il s'est promené de festival en festival. Ce qu'il a capté sur la 5e édition du Bruit de la musique, au milieu des champs, dans le nord-est de la Creuse, s'apparente à une belle utopie sonore que le saxophoniste Michel Donneda définit parfaitement.
C'est assez exceptionnel le travail que font Nine et Martine et comment ils ont réussi à tisser un lien dans ce pays qui est fort dépeuplé, il faut bien le dire. Ce pré, par exemple, où il y a des vaches 4 jours avant l'implantation du festival et où le monsieur, d'ailleurs, qui prête le pré ne vient pas du tout au festival. Mais on sent qu'il y a une forme de solidarité, on pourrait presque dire de survie, quand on est dans un territoire aussi vaste, malgré tout, et aussi abandonné, on peut le dire. J'ai pas peur de ce mot, parce que c'est cela. Et en même temps, ils réussissent à projeter une idée toute fraîche de cette presque utopie de faire entendre, voir des choses dans un pays qui est très très éloigné de toutes les autoroutes de la culture.
Tout ça nous étonne énormément, nous dépasse complètement, au sens aussi où on est surpris même par l'aspect qu'il prend. Même l'aspect, par exemple, visuel. On n'aurait jamais pensé que ça deviendrait, que la pâture dans laquelle on est accueillerait un grand chapiteau tout coloré comme un cirque avec des fanions, des lumières. Et ça nous a vraiment beaucoup ému, puisque on travaille depuis longtemps à ce que cette image de la musique contemporaine, faite pour une élite très intellectuelle, très compliquée, très cérébrale, et bien que cette image-là s'évapore petit à petit. Cet aspect, par exemple, visuel, où ça devient une fête, on a l'impression d'être à jour de fête, quoi, de Jacques Tati, ça c'est vraiment une chose qui nous remplit de joie, quoi.
Le cœur du festival Bruit de la musique, je l'ai dit en début d'émission, c'est le pré de Saint-Sylvain sous Toul. C'est là que se dressent le chapiteau et les tentes qui abritent les services indispensables à un festival accueillant, et notamment la restauration et la buvette. À côté de l'indispensable, il y a aussi deux originalités de ce festival, un stand de disques et de livres tenu par le distributeur Metamkin, et les ateliers du bruit, ouverts à tous et animés par Claudine Loudière et Nili Mousset.
Ça fait partie aussi donc des choses que l'on fait en saison, c'était de proposer des ateliers qui ne soient pas uniquement des ateliers où les gens reçoivent les choses passivement, mais des ateliers où les gens puissent agir aussi, et de voir que le matériau sonore peut être manipulé, que l'on puisse garder l'aspect ludique. Ça, c'est en tout cas pour moi un aspect extrêmement important, que dans la musique, il y a un aspect ludique, même si c'est une musique extrêmement complexe, par exemple, écrite avec une formidable science. Il y a malgré tout, le compositeur, la compositrice, si la musique est écrite, joue avec le matériel constamment, joue et le déjoue aussi, fait et le défait. Et ça, c'est vraiment l'aspect joyeux, même si c'est pas forcément un éclat de rire comme au burlesque, malgré tout, c'est quelque chose de joyeux.
Les vaches du pré de Saint-Sylvain-sur-Toul, qui paissent là en temps normal, ont repris depuis possession de leur pré, et qui sait, les ateliers du bruit ont peut-être laissé dans l'herbe quelques vibrations secrètes. Les festivaliers avaient juste quelques pas à faire pour glisser de la fabrication, donc des ateliers du bruit, au stand de Metamkin tenu par Jérôme Neutinger, des livres, des disques reliés bien sûr à la programmation du festival, et aussi quelques raretés. Au bruit de la musique, on ne passe pas au stand de Metamkin, on s'y attarde, tenu en haleine par la passion de son animateur Jérôme Neutinger.
Ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est que je ne suis pas en terrain conquis. Il y a une grande partie du public qui est un public néophyte qui ne connaît pas ces musiques-là. Donc il va souvent demander ce qu'ils viennent d'entendre. Donc j'amène en priorité les disques des musiciens programmés, plus une large sélection de choses autour qui me plaisent, dont je suis capable de parler assez facilement pour le présenter. Et puis les musiciens amènent aussi leurs disques que je m'occupe de vendre. Donc il y a, moi ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a vraiment un échange possible, une rencontre et une discussion, comme dans d'autres festivals, mais encore plus ici, parce que effectivement on n'est pas en terrain conquis. Et donc si je parle de telle ou telle personne, à la rigueur, les gens, Ivan Parker ou Derek Bailey, ils savent pas qui c'est. Donc voilà, il ne s'agit pas de simplement dire des noms, mais il s'agit d'être capable de parler d'une musique, de la défendre, et puis de donner l'envie de partager cette écoute avec les gens. Donc la sélection, elle se fait comme ça, elle se fait par rapport aux musiciens programmés et après par rapport à des coups de cœur personnels. Quoi.
Quel a été le déclic pour créer Metamkin ?
Alors Metamkin, ça s'est créé en 1987. Quand je suis arrivé à Grenoble, en 86, avec déjà un premier label de cassettes que j'avais fait quand j'habitais à Caen, en Normandie, qui s'appelait Déviation Culturelle. Et même avant, moi, ça a commencé quand j'avais 15-16 ans au lycée, j'avais un fanzine qui s'appelait Les Iroquois en Folie, un fanzine punk, tiré à 45 exemplaires, et en photocopie, mais qui déjà était assez étrange parce qu'il y avait du punk, mais il y avait aussi dedans Screaming Joe Kings. Qui était un vieux monsieur du blues rock. Il y avait aussi des gens qui m'ont beaucoup influencé, qui s'appelaient Déficit des années antérieures, un groupe à Caen, des anciens élèves des Beaux-Arts, qui avaient leur label, qui faisaient eux-mêmes leurs disques, eux-mêmes leur distribution, et qui m'ont vraiment ouvert sur tout un pan de la musique industrielle que je ne connaissais pas. Et j'ai eu d'un seul coup un déclic dans ma tête, c'est vraiment vers là que je me suis dirigé. Et quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai rencontré quelques personnes et on a créé cette structure Metamkin qui au début avait l'idée de produire des choses, de distribuer des choses. Et le premier catalogue de Metamkin sorti en 87, c'était une feuille A4 pliée en deux. Il devait y avoir 7 références, 6 cassettes et un double vinyle. Et puis les choses ont évolué pour devenir aujourd'hui une structure assez gigantesque. Et,
vous en êtes à combien de références ?
On a un peu plus de 7500 références, il y a un peu plus de 35 000 items en stock. Non, c'est devenu assez gigantesque et je suis assez étonné. Et j'ai pas eu le temps de voir l'évolution. Toujours la tête dans le guidon, comme on dit. Et Metamkin est une structure de distribution. Donc on va dire que 60% de l'activité, c'est de la vente à des grossistes qui revendent dans des magasins dans le monde entier. Et 40%, c'est de la vente directe à des personnes via le site d'Internet.
C'est la première fois que tu viens sur ce festival ?
Oui, c'est la première fois.
Natacha Musslera.
Ouais, et je sens, j'ai jamais senti ça. Je trouve que c'est un festival heureux. Et c'est le premier où ça circule de cette manière-là, de cette manière à la fois précise. Tous les concerts sont à l'heure. Et avec c'est ouvert. Rien n'est fermé, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de. La parole circule, c'est bienveillant. C'est vraiment bienveillant. Ça, c'est et heureux. C'est tellement important. C'est très précieux.
Le bruit de la musique, belle utopie sonore et humaine à la fois, dont nous avons aujourd'hui exploré la 5e édition, en accéléré bien sûr. J'espère que malgré tout, l'esprit de ce festival aura été palpable, sa douceur, sa sérénité et ses qualités humaines. C'est Françoise Cordet qui a réalisé cette émission avec son talent et sa patience habituelle. À ses côtés, Pascal Bénard, Soizic Noël et Julien Rabin. Il est minuit, l'heure de nos miniatures contemporaines présentées par une voix familière.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.